La secrétaire d'État à l'économie numérique, chargée aussi de communiquer sur la réforme des retraites. Elle sera confrontée à notre deuxième invité, Benoît Thiolin. Rendez-vous avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h passé de 4 minutes. Tout de suite, c'est Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Nous partons aujourd'hui sur le front de Madrid, en brigade de la solidarité antifasciste, armée de centaines de signatures d'universitaires français. Nous allons soutenir le juge Garçon dans sa tentative de juger le franquisme et ses crimes contre l'humanité, d'ouvrir ses fosses communes, de retrouver les milliers d'enfants volés. Il est poursuivi par trois groupes fascistes, relayés par l'appareil judiciaire espagnol. C'est l'Espagne à l'envers, c'est insupportable pour nous. Où est la justice, la vérité, la réparation? Ils sont de retour. Je dis, le juge risque d'être exécuté professionnellement. Non pas salant, non pas salant, cognon.
Prometemos resistir, ay candela, ay candela.
Bonjour Daniel. L'association Ay Carmela de Bordeaux et l'amicale des anciens guérilleros FFI de la Gironde organisent un rassemblement le jeudi 22 avril à 18h devant le consulat d'Espagne de Bordeaux pour soutenir le juge Garçon, accusé de prévarication par l'extrême droite espagnole. Il doit comparaître vendredi prochain devant le tribunal suprême de Madrid. En fait, il comparaît parce qu'à la demande des victimes, il a décidé l'ouverture d'une enquête sur les crimes franquistes. Il faut que nous soyons nombreux devant le consulat, car c'est la justice et la démocratie qui sont en danger, aujourd'hui en Espagne, mais on le sait aussi un peu partout dans le monde. Merci.
Eh bien bonjour, je suis Philippe, un habitant de Sologne, qui va essayer de vous transmettre son envie de vomir. Parce que cette fois, il y a vraiment de quoi vomir. Il y a un village en Sologne qui s'appelle Salbris, qui a été très 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 durement touché par la crise. Sa ville voisine, Romorantin, perd du matra, enfin c'est une catastrophe dans cette région. Et puis le maire de Salbris, qui est de couleur communiste, je crois, mais ça j'en suis pas certain par contre, a lancé un grand plan pour réindustrialiser sa ville, à savoir la construction d'un centre logistique, d'une zone industrielle et créer de l'emploi, quoi. Il a fait son boulot de maire. Mais le problème dans cette belle région, habitée par nos riches, eh bien, cela dérange les chasses de Monseigneur. Alors, tu dois savoir que, à côté de ce centre logistique qui ne verra pas le jour, il y a une grande propriété qui a pour propriétaire notre grand avioniste français, dont l'un des membres de sa famille est, je crois, maire de Corbeil, hein, monsieur absolument très, très, très humain et chaleureux et plein d'humour. Eh bien, cette famille a tout simplement fait un procès à la ville de Salbris, dont la dite ville a perdu le procès, parce que la proximité de ce centre logistique et de cette zone industrielle qui représentait plusieurs centaines d'emplois dérangeait les chasses de Monseigneur le marchand d'avions. Et bien de procès en procès, et comme l'a fort bien expliqué le maire de Salbris, ils ont eu affaire au plus grand cabinet d'avocats parisien, ils ont perdu tous leurs procès, et la ville est maintenant totalement ruinée, il me semble même qu'ils vont perdre leur piscine, mais Monseigneur le marchand d'avions pourra toujours continuer à chasser en paix. Moi, une question que je me pose, est-ce que ces gens se rendent compte à quel point ils sont laids et sale. Tu sais, la conduite des grands propriétaires terriens en Sologne mériterait vraiment, vraiment une émission, parce qu'il faut voir de quelle façon se conduisent ces gens-là. On dit que le sanglier est un prédateur, eh bien eux sont bien pires que les sangliers, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup moins propres. Excuse-moi, la colère me monte. Allez, bonne journée à toi, salut.
Oui, bonjour, je suis en train d'écouter l'émission au sujet de Paul Carpita. J'avais vu son film, effectivement, sur les quais, qui retraçait les amours de deux jeunes gens, au milieu des problèmes de la guerre d'Indochine. Robert Guédiguian, dans le film Marius et Jeannette, a repris un plan de Paul Carpita, notamment la passerelle sur le port de Marseille, à la toute fin de son film. Et j'étais allé assister à une avant-première de Marius et Jeannette dans la région de Marseille, et effectivement, j'avais posé la question, et il m'avait confirmé qu'effectivement, c'était bien le même plan, et c'était un hommage à Paul Carpita dans Marius et Jeannette, à la toute fin de son film. Voilà, un salut à Paul Carpita et à Guédiguian. Salut.
Bonjour, je suis Rémi à Saint-Nazaire. Ah, je suis vachement heureux d'avoir connaissance de ce Paul Carpita et de son film de 53, Rendez-vous d'été, parce que à cette époque-là, même avant, 51-52, j'étais gamin, mais alors vraiment tout gamin, au canal de Suez, et je voyais passer le Pasteur avec plein de militaires et de tanks à l'aller et plein de cercueils au retour. Bon, et ça a été une éducation politique de gamin dans ma vie, et donc je suis très sensible à ce sujet. Alors par exemple, j'avais un copain arabe égyptien qui me disait, mais non, les soldats français, ils vont libérer la Palestine, ils vont pas aller en Indochine, c'est très loin. Et ben, c'était juste après le drame de 48 en Palestine. Bon. Et puis aussi, il y avait des déserteurs, c'était le seul endroit où on pouvait un peu déserter, enfin, quelquefois, près des terres, quoi. Donc il y avait des faits divers de légionnaires qui essayaient de déserter avec des combines plus ou moins bizarres. J'étais à Ismaïlia, au milieu du canal de Suez, où j'étais enfant. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je suis toujours un peu là-bas, et j'y suis. Et voilà. Au revoir.
Oui, bonjour. Stéphane Guillon disait ce matin que le seul point positif à ce problème d'aviation internationale était que les charters pour les Balkans et l'Afrique avaient cessé. Eh bien, sachez qu'avec la reprise du trafic, ils ont repris. Mon fils, en arrivant de Ouagadougou, a été témoin d'une interpellation et d'un départ d'Africains, je crois de Maliens. Enfin, ils ont protesté avec son groupe de copains qui sont tous des futurs profs. Et ben, ils ont été contrôlés. Bon, donc ils ont été pris par la police. Vive la police.
Ces derniers jours, moi j'entends plusieurs fois des journaux de radio et télé utiliser ce mot-là, souffrance. Les usagers en souffrance dans les gares. Les usagers en souffrance dans les aéroports. Mais arrêtez, bon Dieu, réfléchissez un peu à vos paroles. La souffrance dans les hôpitaux, oui. Dans les centres de rétention, oui. Dans les prisons, oui. Chez les peuples miséreux, oui. Mais de grâce, dans les gares, il y a des gens en difficulté, mais pas des gens en souffrance. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Allez, ciao.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Entendre des voix françaises dans ce désespoir qui est le nôtre, c'est vraiment autant de baume au cœur. Une bonne nouvelle cependant, nous avons réussi à vendre nos magnétophones et nos micros pour nous acheter des bicyclettes. Et oui, c'est la meilleure solution. Et nous avons notre plan Tokyo-Vladivostok. Nous traversons le Japon, nous allons trouver un bateau, nous espérons, quitte à être passagers clandestins avec nos bicyclettes, et nous voilà à Vladivostok très bientôt. Et de là, eh bien, comme nous n'avons évidemment pas les moyens de prendre le Transsibérien, nous suivrons la route qui va nous conduire à Oulan-Bator, à Oulan-Udé, à Irkoutsk, à Ekaterinbourg, puis à Moscou. Et là, à Moscou, eh ben, on sera comme à la maison. Quoi, qu'est-ce qui reste en Moscou, Paris, ce sera de quelques coups de pédale. Donc, nous devrions être bientôt de retour, et je suis sûr que vous vous en réjouissez. D'autant plus qu'actuellement, bonne nouvelle, se tient à Washington le G20 social. Ça nous intéresse, tout ce qui est social. Oh, j'apprends que les ministres du travail des différents pays, des G20, ne seront pas tous à Washington à cause de ce maudit nuage islandais. Mais il y aura des syndicalistes et des syndicats pour faire des déclarations internationales concernant l'harmonisation du droit du travail, et notamment la Chine. La Chine nous intéresse. Nous avons fait de nombreux reportages en Chine, vous vous en souvenez. Et bien sûr, nous sommes intéressés aux luttes sociales en Chine. Contrairement à ce qui se raconte, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, notamment à travers l'écologie. L'écologie est un refuge pour les luttes et la contestation sociale en Chine, et localement, il y a eu toutes ces dernières années, et actuellement davantage encore, des luttes, et là, dans ce pays, des luttes qui sont parfois ardentes et violente. Aussi allons-nous aujourd'hui retrouver ces hardis français entrepreneurs qui trouvent en Chine, évidemment, tout ce dont rêve un grand patron français, une grande patronne française, je ne citerai personne. Voilà notre sujet du jour, les patrons français en Chine. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Nous sommes à côté de nos bicyclettes, nous regardons l'horizon et nous arrivons très bientôt.
Bonjour à tous les AMG. J'ai trouvé dans un dictionnaire des mots de Brassens la définition de foutriquer. Alors, le foutriquer. Dérivé de foutre, ce terme est très péjoratif. Le foutriquer est un homme chétif et insignifiant, très remuant. Il est de taille disproportionnée par rapport à l'audace de ses entreprises. Je crois que c'est la meilleure définition que j'ai trouvée de mon petit frère. Voilà, c'était Arthur de la Côte d'Opale. Au revoir.
Voilà, je vous appelle parce que j'ai entendu aujourd'hui que le président M. Sarkozy proposait de supprimer les allocations familiales aux parents dont les enfants s'absentent trop souvent sans raison de l'école. Je trouve un peu surprenant qu'un président de la République veuille laisser dans le souvenir des Français de sa présidence qu'il a été celui qui a proposé la suppression des allocations familiales pour absentéisme. J'ai le souvenir que d'autres présidents ont laissé des mesures d'une autre valeur, d'un autre niveau, comme par exemple le droit à l'IVG ou le droit de vote à 18 ans, ou encore la suppression de la peine de mort, ou la non-intervention dans la guerre en Irak du temps de M. Bush. Est-ce que c'est pour remonter dans les sondages ? À bientôt.
Salut Daniel. Je suis vraiment désolé de te laisser ce message. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Un PSA a rebondi de 5% au niveau du CAC 40. Vraiment, je suis vraiment en peine pour eux. 5%, c'est pas grand-chose. Mais 5% par rapport à 5 millions, ça commence à faire de l'argent. Donc voilà, j'ai quoi d'autre comme nouvelle? Tout va bien. Un nuage de cendres paralyse l'Europe. Ça fout la merde partout. Il paraît que nous ne sommes que des machines. Mais depuis avant-hier, j'ai bien conscience que nous ne sommes pas que des machines. Nous sommes réellement des humains, des pauvres petits humains, avec nos faiblesses, avec nos désirs, avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Et quand on parle de désir, quand on n'est pas content de ne pas avoir pris son avion, t'as pas pris ton avion, toi ? Ah, t'as raté l'avion ? Non, il n'y avait pas d'avion, tu l'as pas raté. Ça me fait rire. J'ai une copine qui est coincée en Tunisie. Elle me dit, bof, écoute, c'est pas grave, je préfère être en train de bosser, gagner du pognon. Bah, je dis, ouais, mais au moins, t'es dans un hôtel, ça va, t'es pas à la rue. Elle me dit, non, ça va. Bah, je dis, tu vois, mets-toi à la place de tous ceux qui, en Tunisie, sont à la rue. Et pour eux, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'avion. Voilà, petit message de Barbara.
Des fois, je travaille toute la journée du matin jusqu'à la nuit.
Mais je dis souvent, ce qui a fait la richesse de la Chine aujourd'hui, c'est tous ces petits ouvriers qui ont travaillé durement et qui ont enrichi leur pays.
C'est-à-dire qu'on a une usine où les gens chez nous travaillent aujourd'hui 212 jours par an, 8 heures par jour.
Alors qu'ici ?
Ici, on travaille 330 jours par an et 8 heures par jour pour 5-6 fois moins cher.
Si la Chine est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces petits ouvriers.
À partir de 5 heures du matin, jusqu'à 10 heures le soir, je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine ?
Non, il n'y a pas de jour de repos.
Le modèle chinois est un modèle économique pragmatique. Tout est fait pour favoriser le développement des entreprises. Parce que si on veut avoir des œufs, il faut soigner la poule. Hein, et non pas la couper en morceaux comme on est en train de le faire en France.
如果我在那边，那当时是苏州广播电台。
c'est Daniel Mermet, c'est la messe, j'y suis avec Guy Ventil, grâce à tous ces petits ouvriers.
Flight number two.
L'ouvrier chinois volontaire, l'ouvrier chinois a envie de travailler. Mais ici, si on décide que par suite d'une augmentation du carnet de commandes, on va passer à 2 heures supplémentaires par jour, c'est accueilli avec plaisir, hein, avec plaisir. Et mon problème est plutôt de tenter de limiter les heures supplémentaires que de les demander. C'est-à-dire que eux vont systématiquement essayer de faire des heures supplémentaires.
Ça me fait penser à la phrase de Nicolas Sarkozy qui veut gagner plus, travaille plus.
Oui, bah oui. Ça ici, c'est ça à 150%. Voilà. Vous avez des ouvriers qui non seulement vont faire leurs 12 heures de travail ou normalement leurs 8 heures de travail par jour, mais vont refaire encore 4 heures de travail quand ils vont rentrer dans leur famille à tenir une boutique le soir. Tout le monde comprend ici que le développement doit passer par d'abord le développement économique des entreprises.
Et ben voilà ce qui nous attend. La France de demain, c'est la Chine. Travailler plus pour gagner plus. Comment expliquer autrement cette fabuleuse croissance? Le monsieur que vous avez entendu, ne croyez pas que c'est rue des entrepreneurs, c'est le boulevard des entrepreneurs, c'est l'autoroute des entrepreneurs, c'est le paradis des entrepreneurs, c'est la Chine. Encore que, aujourd'hui on va rencontrer des patrons français. C'est pas tous qui réussissent tout à fait. Je vous signale un livre très intéressant de Jean-Marc et Idir Plantade, le bien nommé, qui s'appelle La face cachée de la Chine et qui raconte justement des plantades, toute la vérité sur la plus grande jungle économique du monde, la plus grande jungle économique du monde. Évidemment, aujourd'hui, pas un jour sans la Chine. Le monde entier est à l'heure chinoise, homme d'affaires, politique, journaleux, chante sur tous les tons la formidable machine à croissance chinoise, la Chine, première puissance économique du 21e siècle, et peu à peu s'installe en Occident la certitude que l'empire du milieu est un Eldorado doublé d'une terre promise. Eh ben, oui, sauf pour les petits ouvriers, c'est-à-dire ceux avec la sueur desquels et sur le dos desquels se fabrique ce miracle, et puis aussi quand même des entrepreneurs et des investisseurs qui commencent à en rabattre gentiment, notamment les entrepreneurs français. Faut-il vraiment délocaliser? Fallait-il vraiment démolir complètement le tissu industriel, économique français, avec tout ce que nous savons, pour un tel horizon, même si ce n'est pas le seul? C'est pas seulement en Chine qu'on a délocalisé, mais enfin, il y a quand même 800 entreprises françaises qui sont présentes en Chine, des petites, des moyennes et des très grosses. On va voir un petit peu dans quel climat, dans quel esprit tout cela se passe. Et puis, on rencontrera ces Chinois qui sont conscients de tout ça, notamment le docteur Liu Keiming, directeur de l'Institut d'Observation Contemporaine, et qui nous dira un petit peu comment il voit les choses, comment ça se passe pour ces petits ouvriers. C'est jusqu'à 16h. C'est la Bassi Chine. Suis. Thank you.
émission.
Nous sommes tout au sud de la Chine, pas très loin de Hong Kong. Un endroit complètement désert il y a quelques mois et qui est en train de devenir une petite ville française, grâce à cet homme. Joël Pujol s'est installé il y a une dizaine d'années à Canton. Son métier, aider les entreprises à s'implanter en Chine. Il vient de créer ici son propre parc d'entreprises où il s'occupe de tout. Au patron français qu'il appelle, il propose de se charger des formalités, du recrutement, de la formation et même de la construction de l'usine, comme cet échafaudage en bambou qui va accueillir une PME française.
Ça sera prêt dans un an, dans deux ans?
Cette usine-là sera prête dans deux mois.
Voici la prochaine usine, on y produira des plastiques et du textile, et tout autour des terrains vagues où l'on attend les PME françaises.
Eh bien oui, il fuit cette France archaïque, cette France hostile à l'entreprise avec la lourdeur de ses règlements, de ses chars, de ses syndicats et surtout de ses 35 heures. Ce seront ces patrons français qui s'installent ailleurs et notamment en Chine. Vous avez compris, ce petit document que nous vous avons fait entendre présente Joël Pujol. Il est incubateur pour permettre aux entreprises françaises de s'installer. Parce qu'il y a quand même quelques règles, pas beaucoup, enfin il y en a quelques-unes. Puis il faut faire attention quand on arrive dans des lieux sauvages, le capitalisme sauvage, la sauvagerie, ben, il faut s'en défendre et il faut s'en méfier. Et c'est une des activités de Joël Pujol qui est là donc pour accueillir les PME qui cherchent à s'installer, qui veulent s'installer. Et dans ce parc industriel, il y a une pépinière d'entreprises, 18 entreprises qui sont rassemblées et dont nous parle avec talent Joël Pujol.
Joël Pujol, déjà un petit mot pour décrire où on est. On arrive chez vous. Tout d'un coup, on passe une première grille, une deuxième grille, une troisième grille avec des gardiens en uniforme et un petit macaron qui dit Global Village. Et on est dans un endroit avec des tours, mais pas des tours de HLM, quoi. Des tours grand luxe, marbre et boiserie apparente, un jardin extraordinaire au milieu. Ça ressemble à ce qu'aux États-Unis on appelle les gated communities, c'est-à-dire ces endroits fermés pour privilégier, en gros.
C'est un peu comme ça en Chine, mais c'est parce que c'est pas n'importe qui non plus qui habite ici.
C'est pas des prolos.
Non, pas vraiment. Si vous voulez, c'est toute l'habitude. La Chine est pas très belle aujourd'hui. On est dans une zone industrielle, donc derrière et dehors, vous l'avez vu, hein, vous avez pris les autoroutes très embouteillées, il y a beaucoup de pollution. Et le seul espace qu'ont les Chinois à un moment ou à un autre de voir du beau, c'est de fermer un cercle d'immeubles et puis à l'intérieur de cet immeuble, ils créent des jardins. Le jardin que vous avez devant vous, il a été comme ça alors que les immeubles n'était même pas encore fini d'être construit. Donc ça veut dire que quand vous venez ici, vous avez remarqué, il y a cette petite rivière, des petites cascades, des chutes d'eau, il y a 200 ou 300 essences d'arbres, des pelouses, des petits poissons un peu partout. Bon, c'est un peu magique, mais c'est le moment où vous vous relaxez et vous pouvez arrêter dans la furie de ce monde lancé à 200 à l'heure.
Alors qu'est-ce que vous faites le reste du temps quand vous n'êtes pas arrêté dans votre intérieur en marbre et en boiserie ?
Disons que cet intérieur-là, il profite à ma femme puisque moi j'y suis jamais, j'ai jamais le temps d'y être parce que la Chine c'est 7 jours sur 7, c'est pas 24 heures sur 24, les autres sont à 24 heures sur 24, pas moi, je reste encore français, mais on est bien occupé une dizaine d'heures par jour et tous les jours de la semaine. Et même le dimanche où on pourrait se dire on va se reposer, ben non, le dimanche on continue et on essaye d'établir ce qu'on appelle le guangxi, c'est-à-dire des réseaux relationnels qui font que votre entreprise, elle va pouvoir continuer, elle va pouvoir se développer et que vous allez trouver des supports, des gens qui sont dans les administrations, dans le gouvernement ou dans des clients potentiels capables de vous aider. Alors la nouvelle mode aujourd'hui en Chine, c'est le golf, donc les gens vont golfer. Je suis nul au golf, donc l'affaire est réglée, mais ça m'empêche pas de les accompagner quelque part parce que c'est vraiment là que ça se fait.
Ah ouais?
Le business se fait là parce que tous les grands capitaines d'industrie, tous les administrateurs vont toujours, ça participe de la même idée, c'est essayer de retrouver un moment dans le rush où on peut être ludique, se reposer un petit peu et travailler quand même. Hein, parce que le Chinois, il sait pas s'arrêter de travailler.
Ouais. Votre métier, vous le définissez comment d'ailleurs ? Incubateur d'entreprise ?
Ouais, moi, je suis un incubateur, c'est-à-dire qu'un coach d'entreprise. À un moment ou à un autre, j'ai choisi mon camp. Moi, je suis français. Et je suis là pour aider les PME françaises à s'implanter. Et pour ça, je vais négocier comme un chien les meilleures possibilités d'implantation face aux autorités et aux administrations chinoises. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « J'ai mis un an à savoir dessiner un cheval en 5 minutes ». Ben, c'est ça que je fais. Mon métier, c'est mettre 6 mois pour apprendre aux usines à fabriquer. Et au bout de ces 6 mois, on appuie sur le bouton et là, il n'y a plus de faim.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ?
On
fait les gouttières.
Et combien on gagne quand on fait ce travail-là ?
C'est entre un peu plus de 1000 kuai et puis jusqu'à 2000 à peu près.
Entre 100 et 200 euros. Quoi.
Entre 100 et 200 euros. Et c'est bien payé ça ?
Pour droit. Non, c'est pas beaucoup.
Vous vivez dans les baraques là-bas ? Vous dormez dans les baraques ?
Ouais, c'est dans des dortoirs.
D'accord.
Ouais, c'est comme à l'armée.
Alors qu'est-ce que vous espérez ?
Ouais, bah bien sûr qu'on va faire fortune.
Et toi, de quoi tu rêves ?
Moi j'ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et mes enfants.
Et ils sont loin ?
Moi je viens du Renan.
Mais ça c'est loin le Renan.
Ouais, c'est vraiment loin.
1 milliard 400 millions, 1 milliard 500 millions de Chinois. Les chiffres varient énormément concernant la Chine, tant il est difficile de produire des chiffres dans un pays comme celui-là, l'État ayant le monopole de la production de ces chiffres. Alors on n'est pas à 200 millions près concernant le nombre de Chinois. Pas plus qu'on est à quelques dizaines de millions près concernant les Chinois qui ont les moyens de consommer en Chine. On estime cependant entre 150 et 250 millions de Chinois, ceux qui ont un niveau de vie semblable aux Européens. Voilà. Et les autres, si c'est 1 milliard 400 millions, alors on compte quelques dizaines de millions de très riches. Voilà. 200 millions, ceux qui ont les moyens, le niveau de vie des Européens. Et puis, tous les autres. Et puis, parmi ces tous les autres, une énorme masse qui ressemble à ceux que vous venez d'entendre, qui sont des Mingong, c'est-à-dire ces travailleurs migrants venant de leur campagne, venant des zones rurales. Je rappelle que 65% de la Chine reste rurale et qui constituent ces petits ouvriers qui font tout le boulot. Alors, on est avec Joël Pujol, entrepreneur français, incubateur, qui est là pour faciliter l'implantation des entreprises françaises. Ça peut vous intéresser.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire de business dans ce pays si quelque part, on n'est pas aussi membre du PC. C'est pas pour rien que de plus en plus, le PC qui était ouvert simplement à des administrations laisse aujourd'hui rentrer des hommes d'affaires. C'est-à-dire, c'est l'économie de marché qui est extrêmement bien installée. Il n'y a pas plus capitaliste aujourd'hui en Chine qu'un Chinois.
Et ça, c'est complètement schizo, d'une certaine manière.
Schizo ou pas, c'est de la façon dont le monde marche. Donc, on peut pas y échapper. Mais ça marche, et ça marche remarquablement bien.
Parce que le Parti communiste chinois est un gage de stabilité. Et ce qui dit stabilité, dit bon pour les affaires.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, pour vous parler de stabilité, par exemple, c'est moi, je suis arrivé en 92. 92, un ouvrier se négociait aux alentours de mémoire de 60 euros. Bon.
Maintenant, il vous coûte combien l'ouvrier ?
Bah, un ouvrier non formé coûte entre 90 et 110 euros. Bah, ça coûte de plus en plus cher, mais...
Non, mais un exemple ici, parce que vous parliez d'ailleurs combien coûte un ouvrier ici. Ouais. Un ouvrier français, ça vaut combien d'ouvriers chinois ?
Écoutez, je suis parti, ça fait 17 ans de France. À combien est l'ouvrier français aujourd'hui ?
Disons 1100 euros, quoi.
Ben voilà, c'est 10 fois moins. Un ouvrier non qualifié, c'est 10 fois moins.
Il ne demande pas plus l'ouvrier à force parce que le...
Non. Malheureusement, je veux dire, même s'il demande plus, on va dire que la force de la Chine, quelque part, c'est d'être capable de mettre 20 000 bonhommes demain matin sur un chantier. Bon, ça veut dire que tous ces gens qui viennent sur la bande côtière, et je vous rappelle que la bande côtière, c'est rien par rapport au reste, au réservoir humain qu'il y a dans le reste de la Chine.
Des régions comme le Henan où on est passé, où il y a 100 millions d'habitants.
Quoi. Oui, ou dans le Guangxi,
pauvre.
Ou dans le Sichuan, ou dans la montagne. Vous voyez, ça arrive sans arrêt en ville. Si vous allez dans les gares, vous allez voir ce flux migratoire infernal. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met un petit panneau feuille A4 sur le poteau d'entrée du parc européen et vous avez 200 ouvriers dans la journée. On trouve des ouvriers sans aucune difficulté. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des migrants. Donc vous en avez beaucoup parlé dans la presse et les migrants n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les autres.
Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès à l'éducation.
Alors, dans certaines entreprises, je veux dire que dans les entreprises que je gère notamment et plus largement dans les entreprises françaises, on joue pas à ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas Zola, on n'est pas des exploiteurs non plus. On est venu pour conquérir un marché, mais dans la dignité. Alors donc pas d'enfants et puis ben, payons des cotisations sociales aux employés. Alors c'est assez amusant parce que je suis pas non plus un mécène.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous êtes une ONG, là.
Ben, voilà, je vous explique. Je suis pas un mécène, parce que pour 100 balles de plus, enfin 10 euros, 20 euros de plus ou de moins, c'est une bêtise. Charge sociale, si on parle de Cirlan, 10% charge sociale pour l'employeur, 10% pour l'employé. Bon, si vous avez un salaire de...
Mais c'est quand même vachement moins qu'en France, hein.
Ben, oui, forcément. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, les ouvriers chinois, si vous leur faites pas faire des heures supplémentaires, ils s'en vont. C'est eux-mêmes qui vous les réclament. Alors, quelque part, je voudrais pas être polémique, mais est-ce que on a le droit de dire aux gens, bah, arrêtez de travailler, non, vous gagnerez pas plus que ça. Bah, laissez-les bosser s'ils ont envie de bosser.
Pour résumer, en fait, ce qui se passe en Chine, pour vous et pour les autres entrepreneurs, c'est un modèle de capitalisme vertueux.
Le capitalisme est-il ou n'est-il pas vertueux? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on respecte la loi, donc en ce sens, on est effectivement vertueux. Il n'y a pas de petits-enfants qui travaillent chez nous, donc dans ce sens, on est aussi vertueux. On essaye de travailler avec nos ouvriers et pas contre nos ouvriers, donc ça aussi, c'est vertueux. Mais on est aussi des entreprises capitalistiques à la conquête de la Chine, et ben, là aussi, il faut être vicieux, hein, de temps en temps, pour réussir dans le business, parce que dans le capitalisme, je veux dire aujourd'hui, il y a pas plus capitaliste qu'un Chinois. Hein. Alors moi, j'aurais tendance à dire que on n'est pas vertueux, mais on sait faire du business proprement dans ce pays.
Alors là, on est à Shenzhen, donc on n'est pas loin de ce parc, j'allais dire d'attractions, non, ce parc industriel européen. Et nous sommes avec le docteur Liu Keiming, on l'a déjà rencontré dans cette émission. Il est un ancien journaliste, il est docteur en littérature et surtout il est directeur de l'Institut d'Observation Contemporaine qui essaye, et qui réussit avec une certaine efficacité, bah, tout simplement de défendre un peu, vous avez vu, le droit du travail, les relations dans l'entreprise, le développement harmonieux de la société, de l'économie, etc., etc. Et qui connaît bien cette société chinoise, surtout les sociétés chinoises et étrangères, et la façon dont les choses se passent à l'intérieur de ce petit monde de l'entreprise en Chine. Liu Keiming.
那么他们现在 虽然深圳主要都是这些外来工，他们工作在所有的领域，是这个城市的主要财富的创造者，税收的主要的创造者。
Donc maintenant dans la ville de Shenzhen, la plupart des habitants ils sont des gens de l'extérieur, des 民工 et c'est eux qui a créé la plupart de la fortune de cette ville.
在这里完全没有任何的政治权利，没有任何的民主权利，全是想让政府能够关注他们，所以他们的工资非常低。他们的孩子不能上学。
没有 au contraire, ces 民工 ils n'ont pas du tout de bien-être, ils n'ont pas du tout de pouvoir politique, ils n'ont pas du tout des associations, des syndicats pour se défendre. Leurs conditions de travail, de vie, c'est très mauvaise.
所以这个城市的政府和这个城市的企业可以非常迅速地积累它的资本。所以在深圳在过去27年它的平均增长率经济增长率是 28.7%。
Donc, c'est pourquoi les sociétés, les usines de cette ville ont pu s'enrichir très très rapidement, en très peu de temps. Et le taux de croissance de l'économie de cette ville depuis une vingtaine d'années, c'est en moyenne 28,7%.
Donc, vous voulez dire par là que c'est une ville très riche?
Oui, c'est la plus riche de Chine.
C'est la plus riche de Chine.
Mais dans le budget du gouvernement, dans le gouvernement, il y a 599 millions.的财政预算中没有一分钱是给农民工的孩子的，给农民工的医疗的，农民工的教育的。
Mais parmi le budget du gouvernement annuel, c'est-à-dire 59 milliards 900 000 RMB, rien n'est pour les travailleurs.
所以他们的生活呢就非常的困难。
Donc leur vie c'est dur.
Voyons d'un peu plus près maintenant, si vous voulez bien nous donner des précisions quand même sur les conditions de travail des 民工。
总体上来说，现在我们很多的工厂的工人每个月一般能休息一天已经很不错了。
Donc en général, les ouvriers qui travaillent dans des usines, ils ont un jour de vacances par mois, c'est déjà pas mal.
然后呢，每个月一般挣工资是600到800。
Leur salaire mensuel, c'est entre 600 et 800 yuan.
C'est-à-dire entre 60 et 80 euros mensuels. Pour combien d'heures?
每天工作12小时以上。
12heures par jour.
12 heures par jour, 60 à 80 euros par mois et un jour de congé par mois. Des vacances?
Non.
Seulement pour la fête du Nouvel An chinois, c'est-à-dire la fête du printemps. Mais pendant ces vacances, ils ne sont pas payés.
Il n'y a pas de congé payé.
Non.
La santé, les conditions de santé maintenant, la sécurité sociale.
Non, rien.
Si ces ouvriers sont malades, eux ou leurs enfants ou leur famille, qu'est-ce qui les prend en charge?
Personne ne paye.
老百姓是一分钱都没有的，老百姓没有钱。
Rien pour le peuple.
特别是农村农民工来，是
农民工。
Mais je voudrais vous parliez aussi du travail des enfants. Vous avez pu observer, constater du travail d'enfants dans ces entreprises ici.
Yes, 是，我们非常关注这些。
Oui.
这个问题也是蛮严重的，因为中国的最大的问题呢，就是我们。中国的法律非法童工是16岁以下都是非法童工，根据中国
法律。D'après la loi chinoise, les ouvriers enfants moins de 16 ans, c'est illégal.
你知道中国的小这个中学和小学辍学率是将近10%，是9多一点。
Donc en Chine, 10% des enfants finissent pas leurs études de collège, de l'école primaire.
La scolarité de base, c'est 9 ans en
Chine. 9年
教育，9年，
这样的话他们都要出来工作。然后呢，另外一个我们中国完成基础教育就是9年毕业的时候一般是15岁到16岁就毕业。
Dans ce cas, ils sortent pour travailler, pour chercher du travail à partir de 15-16 ans.
那么 80% 的农村的孩子是初中毕业后就不会再继续上学了。
Et 80% des enfants qui ont déjà fini leurs études des 9 ans d'éducation de base, ils continuent pas.
因为现在呢，因为劳工厂工人短缺非常严重。
Parce que ici dans les usines en Chine, les main d'œuvre manque.
再一个呢，中国做一个假身份证是非常容易的。
En plus, en Chine, c'est très facile de faire une fausse carte d'identité.
所以呢，16岁以下。进工厂的工人非常多。
Donc, y a beaucoup d'enfants moins de 16 ans qui peuvent entrer dans des usines pour travailler.
Quand on dit enfant, c'est quel âge?
一般是13岁到十。
De 13 ans à 16 ans, moins de 16 ans.
Et quel est le pourcentage d'enfants dans les entreprises chinoises?
5%, 600,000.
5%. Ça fait 6 millions.
Ouais.
Ça fait quand même 6 millions.
Ce chiffre est déjà reconnu par le gouvernement.
Ah, c'est le chiffre que reconnaît le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font contre ça?
Ça
veut dire le gouvernement central. Il a promis on va changer tout ça. Mais,
c'est inacceptable.
Ouais, mais après, c'est les officiels locaux qui vont réaliser. Mais ils ne font pas ça.
Ils ne le font pas. C'est eux qui doivent le faire, c'est eux qui doivent appliquer, mais ils ne le font pas.
On déclare comme ça et on fait autrement.
Alors Jacques Jumeau, on vous retrouve ici à Gaoming parce que vous êtes un des entrepreneurs français qui est là depuis le plus longtemps dans la région de Canton.
Une dizaine d'années, oui. Effectivement, une dizaine d'années. La société JPC Control, actuellement, c'est une société qui fabrique des composants électromécaniques destinés à des applications en électroménager, dans les biens d'équipement.
Votre boîte, à l'origine, elle était basée en France?
Oui, la société JPC existe en France depuis 1975 et est toujours présente sur les marchés français, fabrique toujours en France. Mais progressivement, au cours des années, nous avons perdu tous les marchés électroménagers, tous les marchés de grande série.
Toutes les usines d'électroménagers?
Oui, c'est-à-dire que mes clients principaux en France ont disparu aussi, sont délocalisés.
Donc pour vous, c'est un modèle de délocalisation réussi?
Délocalisation? Non. Augmentation de nos performances à l'export, je dirais plutôt. C'est un tabou, on ne peut pas parler de délocalisation.
C'est la dame du café qui est en train de renverser une bouteille.
Non, il y avait des années qu'il ne nous était plus possible de vendre à l'export. Et d'autre part, notre clientèle française disparaissait. Je suis arrivé ici en se disant, si j'y arrive pas, je crève. Hein? La société JPC disparaît.
C'était où votre usine?
Toujours implantée en Seine-et-Marne. Actuellement, c'est 30 personnes.
Vous avez combien de salariés ici?
Environ 300. C'est pas beaucoup, hein. Pour les entreprises locales, c'est une toute petite PME. Mon voisin fait 50 000 salariés. Il fabrique des chemises en coton.
Eh oui, voilà. Toute petite entreprise française, effectivement, avec seulement 300 salariés. Vous avez entendu, le voisin, 50 000. Voilà. La chemise que vous portez, que je porte, elle vient peut-être de là. Il y a pas mal de chances. C'est marrant d'enlever dans une maison tout ce qui est fabriqué en Chine. Il y aurait beaucoup de choses qui disparaîtraient et pas mal de nous se retrouveraient plus ou moins à poil. Et oui, c'est ça l'atelier du monde. Et c'est ça les Français, c'est les entrepreneurs français qui se sont installés là-bas et qui sont assez contents.
Vu de la Chine, ce qui se passe actuellement en France, je comprends que Bush ait dit la vieille France, hein, ou la vieille Europe. Je comprends. Pour moi, c'est un pays qui n'a plus de motivation, où les gens sont déjà découragés avant de commencer de faire quelque chose. Le rêve chinois, c'est un petit peu le rêve américain. C'est-à-dire que le développement actuel est tellement important, croissance est tellement importante.
Croissance à deux chiffres.
Il y a la possibilité, l'espoir pour tout le monde de se développer, de se mettre à son compte, de créer sa propre société ou son propre commerce. Et on n'est pas ici en train de transformer les entreprises en sécurité sociale bis. Je pense qu'en France, on a perdu de vue quelle était la logique d'une entreprise. L'objet social d'une entreprise, ce n'est pas de se substituer à l'État. Une entreprise, c'est d'abord réaliser des bénéfices. Malheureusement, ce qui est arrivé, ce qu'on a vu arriver en France au cours des 15 dernières années, progressivement, sont des liens, des menottes, je dirais, on en est peut-être maintenant au barreau sur la porte pour le chef d'entreprise. Mais je pense qu'on a été un petit peu trop loin. Ça me dérange. Vu d'ici, ça, quand je vois les capacités qui se perdent et pour lesquelles il y a des marchés tellement intéressants, importants ici, il y a des jours, je suis un petit peu désespéré de voir que rien ne bouge.
Il y a un côté Far West ici quand même, mais c'est le Far Est.
Oui, c'est un côté Far West. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont à faire, tellement de choses à créer, à développer. C'est ouvert, c'est un marché ouvert. Et il faut être ici à l'affût de voir ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que le fait d'y être permet de voir des opportunités tous les jours. Beaucoup d'ouvriers qui sont immigrés, qui viennent des régions pauvres du centre de la Chine,
Et ça, c'est une majorité des ouvriers qu'on retrouve dans les usines dans le coin.
Oui,
c'est-à-dire ce qu'on appelle les mingongs, quoi, les migrants.
Oui, parce que, bien entendu, la demande en main-d'œuvre est tellement importante dans ces zones côtières où nous sommes, là, que c'est un petit peu comme quand on faisait venir les Auvergnats à Paris.
C'est Bécassine qui vient de sa Bretagne.
Exactement, c'est la même chose qui se passe ici. C'est quelques années de labeur qu'ils souhaitent intensif ici, de manière à gagner le maximum d'argent pour rentrer chez eux. Ils en veulent, oui, ils en veulent.
Vous êtes des travailleurs, vous vous déplacez au fur et à mesure des chantiers, c'est ça ? C'est-à-dire, vous vous déplacez à chaque fois qu'il y a un nouveau chantier, vous allez sur les nouveaux chantiers. Les femmes aussi travaillent sur le chantier.
Les hommes, ils travaillent dans le chantier et les femmes, ils travaillent dans les usines.
Vous travaillez dans une usine ? Tu fais de la confection ? Vous aussi ?
Elle travaille ici.
Elle travaille ici sur le chantier ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites sur le chantier ?
Des petits bureaux, par exemple, porter des briques pour les hommes.
C'est pas un petit boulot de porter des briques pour les hommes. Et toi qui travailles dans la confection, tu travailles combien d'heures par jour dans la confection ? 12 heures par jour.
La plupart des usines, on travaille 12 heures par jour.
Et qu'est-ce que tu couds comme vêtement ?
Je vérifie la qualité des vêtements.
Ah. Tu travailles tous les jours ou tu as un jour de repos dans la semaine ?
Le dimanche, si je veux, j'ai envie de continuer à travailler, je travaille. Si je veux reposer, je peux me reposer.
D'accord, mais tu peux travailler plus pour gagner plus si tu veux. Et tu gagnes combien par mois ?
En moyenne, 1000 yuan par mois.
1000 yuan, 100 euros par mois.
Pas de yuan, les mille.
Voilà, Chine, terre de contraste, hein. C'est très très contrasté entre ses patrons, là en l'occurrence des patrons français, et les travailleurs. Le point de vue de Jacques Vallat, un entrepreneur français, lui aussi implanté en Chine, ou plutôt c'est sa société Extruflex qui l'a implanté dans ce pays.
Ce qui est admirable en Chine, c'est que pour un pays communiste, dirigé par un parti communiste, un État extrêmement centralisé sur le plan des grandes décisions, avec une délocalisation au niveau des régions, dans ce pays, c'est la loi du marché qui prime. C'est-à-dire que la loi du marché, elle joue aussi sur l'offre et la demande d'emploi. Et aujourd'hui, parce qu'on a une demande énorme de gens compétents, le type compétent se fait payer plus cher et démissionne sans aucun problème.
Et j'ai l'impression à vous entendre que la France est plus communiste que la Chine.
Alors ça, c'est une certitude, hein. Mais c'est évident que c'est une certitude. C'est évident. On n'est pas communiste, mais c'est vrai qu'en France, on a un pays qui est arrivé à une extrême socialisation. Je veux dire que la liberté d'entreprendre existe, mais elle est tellement contrainte qu'à la sortie, elle n'existe plus. Le pouvoir de l'État est tel, l'État fonctionne quand même entre le budget de l'État, la sécu, etc. On est quand même à pas loin, je crois, pas dire sottise, 60% du PIB français. Donc c'est colossal. C'est absolument énorme.
Justement, on n'a pas dit un mot sur les cotisations sociales, la sécu, ça, la retraite.
Ça, c'est probablement aujourd'hui un petit peu le bas qui blesse. C'est-à-dire que...
Un petit peu.
Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de protection, je dirais, au niveau de l'ensemble de la population qui travaille pour l'avenir et pour leur pension. Mais le gouvernement chinois est en train de bouger par rapport à ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui en Chine, dans ce capitalisme dit sauvage, dans cette grande liberté d'entreprendre, dans cette grande liberté de l'offre et de la demande du travail, donc dans un vrai régime capitaliste et libéral, il y a effectivement un côté social qui n'est pas encore tout à fait bien étoffé. Mais je pense que ça va venir tout doucement, et parce que les gens font pression. Je veux dire que il faut aussi leur laisser le temps d'avancer étape par étape. La propension française et européenne, c'est de dire ils sont en train de nous piquer nos emplois, il faut les mettre au même niveau que l'Europe, etc., etc. On a mis 19e et 20e siècle pour mettre tout ça au point. Bon, on peut laisser peut-être aux Chinois 20 ans pour arriver à notre niveau, pour mettre un système social en place, pour protéger la population. Ce qu'ils feront, c'est inévitable.
Parole de patron français, mais qui, à 61 ans, n'oublie pas ce qu'il fut. Il fut à Nanterre, en 1968, un gauchiste, un situationniste, dit-il, un anarchiste, et donc il se souvient de tout cela, même s'il a beaucoup changé. Quelque chose qui pourrait peut-être activer cette exigence d'égalité, de justice sociale des Chinois, pourrait être le travail d'une association comme celle que dirige Liu Kaiming. Ses conclusions.
这个要解决中国公认的问题，特别要保护中国公认的利益，不是，也不仅仅是中国自己的问题，因为这是一个全球化的时代。
Donc je veux ajouter une chose aujourd'hui pour défendre les droits, les intérêts des ouvriers, n'est pas seulement un travail de la Chine, c'est le travail du monde, parce qu'aujourd'hui on est entré dans l'époque de la mondialisation.
那么我相信中国工人的命运跟法国工人的命运是紧密联系在一起的。
Donc je suis sûr que le destin des ouvriers chinois est lié au destin des ouvriers français.
C'est l'international, c'est Karl Marx.
对，这是，但是在这个这一次 globalization这个时候，资本家已经团结在一起了，但是我们工人，全世界工人是一盘散沙。
Mais à l'intérieur de cette internationale, ce sont les capitalistes qui se sont unis ensemble, pas les ouvriers.
资本家，他们的钱越来越多，而穷人、工人，他的钱越来越少。
Donc les capitalistes, ils ont de plus en plus d'argent et les ouvriers, ils ont de moins en moins d'argent.
C'est très important ce que vous dites là. La globalisation, à travers les délocalisations, ont appauvri une grande partie du pays, une grande partie de la classe populaire, avec une augmentation considérable de la précarité dans l'emploi. Mais on dit, il y a des délocalisations, les entreprises s'installent en Chine. Et à part ça, on se dit, bon, c'est vrai qu'après tout, c'est peut-être bien pour ces pays en développement, parce que ça apporte du travail à des gens très pauvres, très modestes, etc. Et ça leur permet peut-être d'augmenter, de voir leur niveau de vie augmenter. Or, ce que vous dites, et ce que nous constatons, c'est que cette histoire-là est fausse. C'est-à-dire que l'appauvrissement des travailleurs français et des classes populaires françaises n'enrichit pas et ne sort pas de la pauvreté la classe ouvrière de la Chine et de ces pays-là.
现在工人的工资跟他们十年前他们父母的工资是一样的。
Donc le salaire des ouvriers actuels aujourd'hui reste toujours les mêmes choses qu'il y a 10 ans.
C'est ça. Il n'y a pas d'amélioration. Il faut bien dire ça au monde. Il n'y a pas d'amélioration du sort des classes populaires en Chine. Il y a une amélioration considérable de quelques fortunes. Il y a la constitution d'une classe moyenne qui concerne peut-être 100 millions de Chinois. Mais pour le reste, la classe populaire chinoise, son sort ne s'améliore en rien.
中国我们有2亿人，每天的收入少于1美金。
En Chine, il existe encore 200 millions de Chinois qui gagnent moins de 1 dollar par jour.
我们有超过6.5亿的普通劳动者，没有养老保险，没有医疗保险，没有工伤保险，没有失业保险。
Oui, ni éducation, ni sécurité sociale, ni retraite pour 650 millions de Chinois.
Est-ce que ça, c'est viable longtemps, ça?
很难说。 那中国现在正处于一个非常关键的转型期，我们已经经历了28年的经济转型，现在开始进行社会和政治的转型。我相信未来10年是非常关键的。如果共产党不能够主动的从一个独裁的政权转向一个民主的政权，可能中国会非常的危险。
Depuis 28 ans, la Chine a passé la période de changement économique. Et maintenant, je pense que ces 10 ans, c'est une période très très importante pour la Chine, pour le gouvernement chinois. Si le gouvernement n'arrive pas à bien changer le système politique,
c'est très grave, c'est très dangereux, au cours de grands risques. C'était un reportage avec Guy Vontil, diffusé pour la première fois le 3 avril 2007. Traduction Yang Yang et Luc Richard. Merci à Liu Kangming, Joël Pujol, Jacques Jumeau et Jacques Valla. À lire La face cachée de la Chine, toute la vérité sur la plus grande jungle économique du monde, de Jean-Marc et Yidir Plantade, et publié par Bourin Éditeur. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinée et Alain Gadan. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37.
MAF Assurance, bonjour.
J'ai une famille, Miss MAF, et la famille, ça revient de plus en plus cher pour l'assurance santé.
La MAF y a pensé, et en ce moment, nous proposons même jusqu'à 160 euros de réduction sur votre première cotisation santé.
160 euros, c'est bien ça, mais ce n'est pas valable pour les professionnels et leurs familles, bien sûr.
Si, pour les pros comme pour les particuliers.
Miss MAF, ma famille, les pros et moi-même vous disons bravo.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la MAF.
Offre valable jusqu'au 31 mai 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût selon opérateur.
À déjeuner, vous avez pris un verre et vous en prendrez peut-être un autre ce soir en famille ou avec des amis. Mais sur une semaine, savez-vous quelle quantité d'alcool vous consommez ?
Pour vous aider à faire le point, le site alcoolinfoservice.fr vous propose l'alcomètre, un programme pour mesurer votre consommation d'alcool et ses risques éventuels. C'était un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé.
Dans quelques minutes, Frédéric Clodéon, bonne journée sur France Inter. Il est 16h. Le Flash, Pierre-François de Courcelles.
Les hommages se multiplient à travers le monde après l'annonce du décès de Juan Antonio Samaranch. L'ancien président du Comité international olympique est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire à Barcelone ce midi. Il avait 89 ans. Homme au passé franquiste, fervent admirateur du général Franco. Il fut président du CIO de 1980 à 2001. Sa dépouille sera exposée jeudi dans une chapelle ardente au siège du gouvernement catalan à Barcelone afin que les Espagnols puissent lui rendre un dernier hommage. Le FMI demande des mesures d'urgence à ses États membres pour résorber les déficits publics. Ces déficits pourraient sinon peser sur la reprise économique des pays développés. Dans ses prévisions de printemps, le Fonds monétaire international a par ailleurs relevé ses prévisions de croissance pour la France à 1,5% en 2010 et 1,8% en 2011. La parution des quotidiens nationaux est encore menacée demain en France. La CGT a reconduit sa grève chez Presstalis, la principale société chargée de la distribution de la presse. Le comité intersyndical du livre parisien réclame des augmentations de salaire. Trois personnes ont été interpellées à Bourgoin-Jallieu en Isère dans le cadre d'une enquête sur le braquage d'une bijouterie. Les malfaiteurs ont dérobé hier près de 200 000 euros de bijoux. Sous la menace d'une arme, ils ont forcé le propriétaire à leur remettre le contenu des vitrines. Ces trois personnes, deux hommes et une femme, sont actuellement en cours d'audition par la police. Benoît XVI promet que l'Église agira sur le dossier des prêtres pédophiles. Pour la première fois depuis un mois, le pape s'est exprimé publiquement sur le sujet lors de son audience générale hebdomadaire au Vatican. Lors de son voyage à Malte le week-end dernier, il avait rencontré plusieurs victimes d'abus sexuels par des membres du clergé. Échange de bons procédés entre la Russie et l'Ukraine à l'issue d'une rencontre entre les deux présidents de ces pays. Moscou accorde à l'Ukraine un rabais de 30% sur le prix du gaz qu'elle lui livre. La Russie obtient dans le même temps de pouvoir maintenir sa flotte en mer Noire au-delà de 2017. Viktor Yanukovych, le nouveau président ukrainien favorable au Kremlin, salue un accord historique. Le sport et du tennis au tournoi de Barcelone où joueurs et spectateurs ont respecté une minute de silence en mémoire de Juan Antonio Samaranch. C'est fini pour le français Jérémy Chardy, battu par le letton Ernest Gulbis. Joe Wilfried Tsonga, en revanche, passe le deuxième tour en disposant facilement du tchèque Adje. Score final 6-3, 6-2.
La prochaine fois, je vous le chanterai.
La troupe de la Comédie Française interprétera « Quand le soleil est sage, il nous faut des orages, du sang, des sensations et des superstitions. »
Et d'autres chansons savoureuses.
Prévenez vos amis.
Samedi 24 avril
à 12h05.
Dans « La prochaine fois, je vous le chanterai » de Philippe Meyer.
Oh.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle du 13 au 17 juillet. 5 jours de live, plus de 120 concerts. M, Jacques Dutronc, Émilie Simon, Phoenix, Carmen Maria Vega, Tété, Indizara, Alain Souchon. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Renseignements 05 46 50 55 77 et sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de 4 minutes. Vous êtes avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Bonjour Pierre-François. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci de nous écouter. Mercredi, c'est le jour des enfants, puis il y en a qui sont en vacances de toute façon, mais pour eux et puis pour leurs parents aussi, des disques viennent de paraître. Il y en a un qui est consacré au jazz, lullaby, c'est-à-dire berceuse, et puis un autre, classics for kids. Et bah, c'est bien mignon, c'est à partir de l'âge zéro, c'est marqué, dès la naissance, et on peut écouter entre, évidemment, en famille, entre parents et enfants, ces classiques assez faciles à aborder, tels les jeux d'enfants de Georges Bizet, conçus auparavant pour le piano et puis heureusement orchestré à merveille. Gallo, sous-titré Le Bal, tiré des jeux d'enfants de Georges Bizet par l'Orchestre National de l'ORTF, c'était dans les années 70. Maintenant, c'est l'Orchestre National de France, bien sûr, à l'époque conduit par Jean Martinon. Et on trouve sur ce même enregistrement pour les enfants, Classics for Kids, par exemple, Children's Corner, les enfants ont leur coin aussi, bien sûr, Claude Debussy qui a pensé à sa petite chouchou et qui propose un Docteur Gradus ad Parnassum, c'est-à-dire, voilà, c'est un traité qui existait déjà auparavant, Clementi, Fuchs, une sorte de méthode, donc pas à pas, grade après grade, et puis on va jusqu'au Parnasse, on va là où se tiennent les divinités de la musique, pourquoi pas. Peter Gradus et Parnassum, tiré du coin des enfants, Children's Corner, de Claude Debussy par Alexis Weissenberg, sur ce même disque pour les petits. On trouve de Benjamin Britten la fameuse page d'orchestre, le guide de l'orchestre pour les jeunes, mais il y a la musique qui est très très belle en soi, bien sûr, qui présente les instruments. On part d'une magnifique pièce de Purcell, et puis après... Mais là, il n'y a que la musique et pas le commentaire, donc c'est un peu dommage, parce que les enfants, évidemment, si on leur joue toute une page comme ça, avec des variations, ils vont pas comprendre. Donc un jour prochain, je vais me consacrer à analyser cette œuvre et puis à donner un texte en français pour expliquer bien les groupes d'instruments.